Bonjour, vous êtes bien sur Studio Zef et vous nous écoutez sur 91.1 ou sur studiozef.fr. Aujourd'hui, pour ce nouveau Pédacop, nous recevons David Autier, président de l'UNIRES. Emmanuel Bessé-Ferreira et Véronique Durand, toutes deux membres du conseil d'administration de l'OCCE du Cher, mèneront l'interview.
Bonjour David.
Bonjour à tous.
Voilà, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en nous décrivant un petit peu ton parcours ?
Alors, donc David Autier, je suis formateur en sciences de la vie et de la terre à l'ESP Centre-Val de Loire, plus particulièrement sur le site de formation de Bourges. Je m'intéresse énormément à l'éducation et à la santé, ce qui explique en grande partie ma présence, je pense, avec vous aujourd'hui. Et à ce titre, donc, je me suis formé en passant un master santé publique sur Clermont-Ferrand, en suivant un diplôme universitaire d'addictologie aussi sur Clermont-Ferrand, et puis dernièrement en terminant une thèse sur le thème de l'éducation à la santé, plus particulièrement l'éducation thérapeutique des patients.
D'accord. Au sein de l'UNIRES, en quoi consiste ton engagement ?
Alors mon engagement, il est depuis 2 ans relativement fort, puisque j'ai eu la chance d'être élu président de cette association. Donc UNIRES, c'est le réseau des universités pour l'éducation et la santé. C'est une association, loi 1901, essentiellement financée par l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, qui va intégrer la nouvelle agence française de santé publique au sein d'une direction prévention. Et donc, nous avons des financements aussi NGEL. Et donc, c'est l'UNIRES est en charge de la promotion de l'éducation à la santé. Donc, mon rôle au sein de cette association va être d'animer 5 salariés et puis de nombreux bénévoles, des coordonnateurs pour aboutir à cet objectif, donc de promotion d'éducation à la santé au niveau national, international. Quand je dis national, hein, c'est DOM-TOM inclus.
Depuis combien de temps es-tu engagé à l'UNIRES ?
Depuis pratiquement la création de l'association, je serais presque incapable de dire à quelle année, c'était dans les années proches des années 2000, où Didier Jourdan, qui est enseignant-chercheur sur Clermont-Ferrand, qui était le directeur de l'ESP Clermont-Auvergne, qui maintenant est le patron de la prévention en santé en France, m'a envoyé un courrier pour me demander de venir réfléchir avec un groupe national sur l'éducation à la santé. Et donc voilà, ça fait un peu plus de 10 ans, on va dire.
D'accord, tu as accepté facilement sa proposition, sa demande ?
Oui, parce que c'était, ça complétait ma formation, ça m'intéressait tout particulièrement. Sur le département du Cher, à l'ex-IUFM, je menais des actions d'éducation à la santé avec les étudiants. Qui s'appelaient des professeurs des écoles stagiaires. J'avais réuni autour d'une table des partenaires comme le CODES, donc Comité départemental d'éducation pour la santé, la santé scolaire évidemment, mais aussi l'AMPA, l'Association nationale de prévention des addictions et d'alcoolologie, de façon à ce qu'on puisse discuter ensemble et puis mettre au point des procédures mutuelles pour éviter de dépenser de l'énergie à mener des objectifs communs, mais de façon séparée. Et donc c'est arrivé aux oreilles de Didier Jourdan qui m'a demandé d'intégrer son équipe.
D'accord, donc en termes de formation, finalement, l'UNIRES s'adresse plus particulièrement aux formateurs.
Voilà.
Ou alors, directement aux enseignants.
Alors, je dirais un petit peu des deux, mais l'UNIRES, l'association en elle-même, elle est beaucoup plus effectivement dirigée vers la formation de formateurs, puisque au sein d'UNIRES, donc, nous avons essentiellement des enseignants-chercheurs qui proviennent des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, donc des ESPE. Mais nous avons depuis peu des enseignants-chercheurs qui arrivent d'autres laboratoires, INSERM, École des hautes études de santé publique de Rennes en particulier, avec Éric Breton, des DOM-TOM, et donc on est un peu plus pluricatégoriel maintenant. Nous avons un réseau de coordonnateurs qui dépendent des ESPE, qui ont été nommés par les directeurs des ESPE très récemment, hein, depuis moins d'un an, et qui crée un maillage du territoire national de façon à ce que effectivement on puisse faire la promotion des formations de formateurs. L'idée étant d'être efficace au sein de ces formations de formateurs pour atteindre derrière des enseignants et évidemment leurs élèves.
D'accord. Et est-ce que vous avez conçu des outils qui peuvent être directement, pour le coup, utiles dans la préparation de la classe, dans le but d'éduquer à la santé ?
Alors, indirectement dans la préparation de la classe, il y a eu l'outil Profedus, mais qui était beaucoup plus un classeur avec des idées d'activité, avec un photo expression à l'intérieur, pour aider les formateurs, mais indirectement avec une application les enseignants. Mmh. Là, plus récemment, nous avons une formation à distance qui présente les concepts premiers d'éducation à la santé sur une durée de 9 heures, donc qui entre en résonance évidemment avec la durée des formations continues, oui, des enseignants du premier degré, donc qui permet aux conseillers pédagogiques, aux inspecteurs de l'éducation nationale de circonscription, de mettre en place des formations liées à l'éducation à la santé et des formations à distance avec un mix distance et présentiel, sachant que cette formation était une demande du ministère au titre des formations magistères.
D'accord.
Mais elle reste la propriété du NIRES, et nous pouvons la déployer aussi sur notre propre réseau.
Alors je vais préciser quand même que le classeur...
Profedus.
Oui, Profedus. On peut le trouver dans toutes les circonscriptions.
Oui.
Chacune des circonscriptions du Cher possède un exemplaire de ce classeur et donc peut le mettre à disposition des enseignants qui souhaiteraient consulter les fiches, voilà, et voir comment ils peuvent appliquer un certain nombre de choses.
Tout à fait, puisque nous avons dans la chance dans le Cher d'avoir des conseillers pédagogiques qui ont été formés à l'éducation à la santé, puisque le classeur n'est délivré que à des personnes formées en éducation à la santé, en particulier formées par une IRS. Mmh. C'est l'accord qui a été passé avec l'INPES. Alors, il existe... Enfin voilà, on peut, si on demande gentiment à l'INPES, je pense qu'ils envoient quand même le classeur, mais généralement, ils vous renvoient vers l'IRES.
L'idée, c'est d'avoir une formation pour utiliser ce document
dans
l'esprit dans lequel il a été conçu. Quoi.
Oui, pour être aussi à jour sur les concepts d'éducation à la santé qui, comme tout concept scientifique, évolue en fonction des recherches.
On devine à travers les réponses que tu as apportées quelles sont finalement les valeurs qui sont importantes pour l'UNIRES. Est-ce que tu peux revenir sur ces différentes valeurs ?
Alors, les valeurs que nous soutenons, ce sont des valeurs, je dirais, qui sont très proches des valeurs liées à l'éducation à la citoyenneté, les valeurs de la République, donc des valeurs de respect de la différence. Je pense que ce sont des valeurs premières, des valeurs de mutualisation, des valeurs humaines, proches de l'humain et de son respect. Donc c'est pour ça que, en fait, nous allons travailler des compétences qui sont très très proches des compétences de l'éducation vers un développement durable, de l'éducation à la citoyenneté. Et alors ça peut paraître un petit peu bizarre quand derrière le mot santé on met une définition très biomédicale, c'est-à-dire liée à des maladies ou de la prévention de maladies, ce qui n'est pas péjoratif du tout, mais ça n'est qu'une composante de la définition de la santé. Et donc les valeurs dont je viens de parler sont plus rattachées aux autres composantes sociétales et psychologiques de la santé.
Donc ces valeurs dont tu nous parles se rapprochent énormément de celles qui animent l'OCCE. Hein, et... Il y a un élément que tu n'as pas évoqué, c'est la coopération. Et est-ce que tu penses que cette coopération, elle est importante aussi dans le cadre de l'UNIRES ?
Oui, tout à fait. Alors, coopération, j'irai jusqu'à partenariat, dans la définition de Corinne Mérigny, enseignante-chercheur de Versailles. Donc, le partenariat, c'est vraiment une complémentarité du travail. C'est pas une juxtaposition. C'est vraiment une... Pour Corinne Mérigny, elle dit que pour qu'il y ait partenariat, donc j'appellerai coopération, il faut qu'il y ait négociation, forcément. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous arrivons chacun avec des idées, avec des objectifs, et pour qu'il y ait réellement partenariat, il faut qu'il y ait négociation, c'est-à-dire qu'on accepte de faire le deuil de certains de nos objectifs, et puis l'autre aussi, et que chacun soit gagnant aussi, parce que sinon, c'est pas viable à long terme. Donc, moi, j'envisage, enfin, au sein d'UNIRES, je pense qu'on envisage, parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir une présidence de façon dictatoriale ou stalinienne du terme. Donc, je parle, mon rôle est de parler au nom d'UNIRES, évidemment, mais nous sommes multiculturels dans cette association. Et donc, l'idée, c'est vraiment cette coopération, ce partenariat, c'est-à-dire... bénéficier les uns des autres de nos différences pour aller plus loin, plutôt que chacun dans son coin réinventer l'eau tiède. Mmh.
Est-ce que dans les activités même qui sont proposées pour les formateurs, et on peut imaginer pour les enseignants, dans les écoles, est-ce que l'esprit coopératif apparaît dans les documents, je dirais, très pratiques ?
Alors, pour conduire des formations justement d'éducation à la santé, j'en ai conduit toute cette semaine en formation de conseiller pédagogique sur le Loir-et-Cher. J'insiste sur le partenariat, mais sur le vrai partenariat, pas la sous-traitance. Donc oui, ce que nous proposons s'inspire de ces valeurs, s'inspire de cette idée de mutualisation, de coopération, parce que je pense que c'est devant l'élève, devant donc ce futur citoyen que nous formons, si c'est pas des enseignants juxtaposés et d'autres adultes, qu'ils soient infirmières scolaires, médecins, représentants d'une association lambda, qui arrivent les uns après les autres, même s'ils parlent à peu près de la même chose, s'ils arrivent en équipe, avec un discours qui n'est pas commun mais qui se complète, je pense qu'on est beaucoup plus efficace, en particulier pour développer chez eux le travail en équipe, tout simplement. C'est-à-dire que la valeur de l'exemple, elle est importante, même au sein de la forme du travail que vont avoir les enseignants avec leurs élèves.
Alors justement, puisqu'on est au bout de la chaîne avec les élèves, finalement, qu'est-ce qu'on attend qu'ils comprennent ? Sur quel sujet concrètement on va travailler cette éducation à la santé ?
Alors pour reprendre au bout de la chaîne, je dirais plutôt au début de la chaîne, parce que, enfin voilà, ne perdons pas de vue que sans les élèves, les enseignants ne sont pas, et tout le personnel de l'éducation nationale inclus. Donc, alors attention dans mes propos, faut pas interpréter ça comme des clients, mais nous travaillons pour eux, parce que de façon à ce qu'ils puissent devenir des citoyens sans nous, dans le sens plus autonome. Alors autonome, on va pas se lancer dedans parce qu'il faudrait d'autres émissions, je pense. Et donc ce qu'on va essayer de développer chez l'élève, c'est justement la capacité d'avoir des connaissances, des capacités, des attitudes, donc des savoirs, des savoir-faire et puis des savoir-être, qui vont lui donner la possibilité de réaliser des choix. Alors je n'irai pas jusqu'à des choix éclairés, parce que le choix ou autonome, parce qu'on est, nous sommes jamais autonomes, on dépend toujours d'une idée, de quelque chose, on ne peut pas être exhaustif sur la connaissance d'un sujet, mais être en capacité de réaliser des choix, et surtout en évitant le dogmatisme. Donc l'idée préconçue, la dernière invention qu'on a pu voir à la télévision, donc recouper les informations, se renseigner, et puis à un moment prendre une décision, que ça soit la bonne ou pas la bonne, peu importe, mais prendre une décision, voilà.
Et sur des sujets, alors, est-ce que tu aurais des exemples particuliers? Parce que on l'a pas évoqué encore sur. Tu as travaillé sur la dictologie, mais tu as finalement, avec les élèves concrètement, quel sujet on pourrait.
Ils sont multiples, mais je vais en prendre un là, qui fait bouger le plus les enseignants ou les formateurs d'enseignants en formation que l'on met en place dans les formations éducation à la santé. Celui qui les remue énormément, c'est quand je leur dis que le Nutella n'a jamais tué personne, puisqu'ils sont intimement persuadés en éducation à l'alimentation qu'il faut absolument fuir cette pâte à tartiner. Ça peut être très bon, enfin, chacun ses goûts. C'est manger une cuillère de pâte à tartiner par jour, ça n'a jamais tué personne. Manger même un quart du pot, ça n'a jamais rendu quelqu'un obèse. Ce qui va poser problème, c'est si on vide le pot tous les jours, oui, ou même la moitié du pot tous les jours. Mais là, on est bien d'accord. Concrètement, c'est pas pour manger des glucides, des lipides et des protides que l'on va vider la moitié du pot, c'est pour chercher quelque chose d'autre. Donc, quand je leur fais tout simplement une éducation à l'alimentation, je leur explique, ne passez pas des heures à expliquer à des élèves un repas équilibré qu'ils ne mangeront jamais, puisqu'on a des enquêtes qui nous montrent qu'on a environ 2,7% de la population qui mange le fameux repas équilibré. Donc arrêtons de passer du temps à enseigner un repas que personne ne mange. Mais par contre, donner les outils à un élève pour aller chercher sur une étiquette la composition d'un produit s'il en a envie, donner les outils à un élève pour repérer une publicité. Et là, j'ai eu la chance cette semaine de faire une visite, vous savez, les visites dans le cadre de la formation des enseignants stagiaires du premier degré. Donc on est en fond de classe et puis on regarde une matinée de pratique. Et la jeune stagiaire qui était dans une classe de CE1 a fait étudier à ses élèves une publicité, l'une des dernières publicités Nutella, justement, on ne peut pas la citer. Dans Nutella, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et la première question qu'elle leur a posée sur une fiche d'exploitation, c'était le film que tu viens de voir, est-ce que c'est un documentaire? Est-ce qu'il est issu du journal télévisé? Ou est-ce que c'est une publicité? Sur les 24 élèves, 11 ont répondu c'est un documentaire. Alors qu'ils connaissaient tous cette publicité, ils l'avaient tous déjà vue à la télévision. Ils l'ont tous indiqué, oui, on connaît, on reconnaît. Donc vous voyez que donner la capacité à l'élève de reconnaître que ça n'est pas un documentaire, c'est une publicité avec telle et telle intention, jamais je lui dis qu'il ne faut pas manger de Nutella, mais je lui donne la capacité de faire un choix. C'est-à-dire, mange du Nutella si t'en as envie, parce que c'est bon, c'est intéressant, t'en as tout simplement envie. Mm-hmm. Mais derrière, tu sais que dedans, il y a ça, et puis voilà. Donc voilà un exemple tout concret d'éducation à la santé et à l'alimentation qui fonctionne et qui est beaucoup plus efficace que de passer des heures à expliquer que le steak haricot vert, pomme, yaourt est la panacée pour éviter de devenir obèse. Alors attention, j'ai bien dit obèse et pas en surpoids, c'est complètement différent. Le surpoids étant une variabilité normale de l'évolution de la masse, alors que l'obésité, c'est une maladie chronique dont on ne guérit pas.
Bon, on voit bien là, par cet exemple concret, que l'UNIRES peut apporter, dans le cadre de la formation, des outils permettant de faire évoluer, des outils d'experts, pour permettre de faire évoluer la pédagogie, concrètement dans les écoles. Est-ce que vous visez en termes de pourcentage, peut-être, un grand nombre d'enseignants ou de conseillers pédagogiques, c'est-à-dire combien de formations organisez-vous dans l'année?
Alors actuellement, on doit être à, je dirais, 2000 formateurs formés par an. Actuellement, on est à peu près à 20 000 étudiants. Mais ce sont des chiffres à la louche. Je pense qu'il va y avoir une augmentation ce chiffre, puisque il y a un mois, fin janvier 2016, est sortie la circulaire de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, la circulaire du parcours éducatif de santé pour tous les élèves. Et à l'UNIRES, on compte beaucoup sur cette circulaire pour dynamiser la formation, certes des enseignants, mais vous comprendrez que quand à UNIRES nous formons des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs de l'éducation nationale, nous sommes beaucoup plus efficaces parce qu'au travers d'eux, nous touchons de nombreuses formations. Nous touchons la formation sur le terrain des enseignants, parce que c'est pas UNIRES qui va assurer toutes les formations continues sur le territoire national, mais par contre, ce sont bien les conseillers pédagogiques qui assurent cette formation toutes les semaines. Donc si nous formons ces conseillers, indirectement, nous allons parvenir à atteindre les enseignants et donc leurs élèves.
Les enseignants qui nous écoutent aimeraient peut-être découvrir des outils pédagogiques. Quels moyens sont mis à leur disposition? Est-ce que vous auriez un site à leur conseiller?
Alors, il existe un site, effectivement, qui s'appelle santé-unires.fr. Donc, unires-edusanté.fr. Sur tout moteur de recherche qui se respecte, si vous tapez réseau UNIRES, vous allez dans les premières occurrences avoir notre réseau. Alors il existe un onglet ressources, par contre ce ne sont pas des recettes de cuisine, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé de fichier avec des activités, puisque l'idée, on est bien d'accord que si on demande aux enseignants, si on leur propose même des séances d'éducation à la santé, on sait très bien qu'ils ne le feront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux médias, les maths, le français, toutes les disciplines. Et donc, à moins que de leur demander de réaliser ceci en juillet, en août, ce qui pourra peut-être éventuellement arriver un jour, la pression des programmes fait qu'ils ne peuvent pas mettre en place plus d'enseignement. Donc, l'idée que nous avons, c'est d'intégrer au sein des activités qu'ils mènent déjà, des compétences, et souvent, à la manière de M. Jordan, ils le font déjà. Ce sont les compétences dites psychosociales. Alors, je ne vous dis pas que c'est la panacée, mais en tous les cas, on a des études, en particulier sur la région Rhône-Alpes, qui nous montrent que c'est plus efficace que de faire le fameux repas alimentaire, de montrer les poumons noirs et les poumons roses chez les fumeurs, etc. Et donc, travailler des compétences psychosociales, développer l'esprit critique, développer la communication, développer les relations interpersonnelles, ça, c'est beaucoup plus efficace. Souvent, ils le font déjà, et le simple fait d'y penser, ils le feront nettement mieux. Et là, on a une amélioration des indicateurs, même biomédicaux.
Je te poserai bien une dernière question avant qu'on conclue. Par rapport aux familles, est-ce que c'est un public visé ?
Oui, parce qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Il faut bien entendu ses parents, il faut l'école, et donc dans une école il n'y a pas que des enseignants, et les discours, s'ils sont contradictoires, on sait très bien qu'ils n'iront pas très loin, et il faut vraiment d'autres partenaires, il faut tout un village pour éduquer un enfant, et donc la relation avec les familles est évidemment primordiale, c'est-à-dire il faut que les familles comprennent que les enseignants ne sont pas là pour noter, évaluer leurs enfants uniquement, mais ils sont là, comme eux, au service de la réussite de l'enfant. C'est-à-dire qu'avec la famille, nous avons le même objectif, hein, que l'enfant réussisse. Alors qu'il réussisse, quel que soit le travail qu'il pourra choisir, mais c'est vraiment cette réussite. Et ce n'est pas forcément perçu de cette façon par toutes les familles.
Comment on peut réaliser ce maillage, justement, entre l'école, les formateurs et les familles, pour que, concrètement, il y ait une vision commune ?
Alors, je ne voudrais pas laisser penser que mon discours est digne du monde des bisounours, mais en même temps, à partir du moment où on va déjà verbaliser ce que je viens de dire, lorsqu'on rencontre des parents, qu'on va les écouter, qu'on va écouter l'enfant, et là je dis bien enfant et pas élève, mais qu'en face, nous avons aussi des objectifs liés au système éducatif, au programme, en mettant tout ceci en raccord, on peut améliorer la situation, mais on peut travailler en mêlant les familles au travail scolaire. Le problème, c'est qu'actuellement, il s'avère que l'école ne amplifie l'inégalité sociale qui existe à l'arrivée. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à voir comment on peut la transformer, cette école, pour qu'elle ne continue pas à amplifier cet écart social, mais qu'elle essaie un petit peu de le combler.
Est-ce que l'école dite ouverte, qui s'ouvrirait davantage sur les partenaires, et en particulier bien sûr les familles, est-ce que ça te semble être une première piste?
Oui. Oui, mais ça, les effets positifs ont été démontrés en particulier dans les quartiers dits sensibles, puisque les enseignants n'ont pas le choix. S'ils veulent que les enfants s'intéressent, travaillent à l'acquisition de compétences, ils doivent travailler de pair avec des familles. Donc, oui, ça s'est particulièrement développé. Et UNIRES, on travaille maintenant avec l'association Parents et Familles, qui se développe beaucoup, évidemment, en banlieue parisienne. Mais, alors, attention, ça serait trop facile de dire que c'est comme une baguette magique et qu'on a résolu tous les problèmes. Donc, non. Mais on fait un petit peu mieux que quand on ne travaille pas ensemble, déjà.
Merci.
Est-ce qu'il y a un partenariat justement alors dans le cadre de cet objectif qu'on pourrait se donner de travailler avec les familles? Est-ce que il y a un partenariat qui est établi aussi avec les infirmières scolaires ou oui. qui peuvent sur le terrain effectivement apporter aussi une expertise?
Alors il va de soi. Le partenariat avec les infirmières conseillères techniques, donc que ça soit des recteurs ou des directeurs départementaux. Va de soi, ou les infirmières scolaires, sur un bassin d'établissement, il va de soi, puisque c'est un réel partenaire santé. Leurs missions, qui sont en train d'être revues, vont complètement dans ce sens. Il me semble, là encore, au sein d'un établissement, que l'infirmière est bien identifiée comme un agent au service de l'éducation à la santé et de la santé. Et donc, ça serait dommage que les enseignants travaillent dans leur coin, que les infirmières travaillent dans leur coin, ce qui s'observe parfois. Alors qu'ensemble, au sein d'un cours de SVT sur la reproduction humaine, ils seraient beaucoup plus efficaces, oui.
Est-ce que tu pourrais, David, nous expliquer en quelques mots quels sont les grands enjeux que l'UNIRES se fixe pour l'avenir?
Alors, l'UNIRES, tout d'abord, de par son pôle recherche, va développer et va promouvoir la recherche en éducation à la santé, de façon à trouver de nouvelles techniques, de nouveaux dispositifs, tester leur efficacité pour ensuite les développer au niveau national. Donc nous avons un pôle recherche qui est important, qui fait notre particularité, qui regroupe des enseignants-chercheurs de plusieurs laboratoires différents, complètement complémentaires, et donc c'est ce qui fait un petit peu notre force. Et lorsque les résultats de recherche nous parviennent, leur transposition permet aux équipes de coordonnateurs de les transposer au sein de leur formation territoriale.
Donc voilà, pour conclure, David, a priori, avec la circulaire du parcours éducatif de santé, nous sommes appelés à nous revoir pour développer ensemble de nouvelles pistes de travail pour nos élèves.
Alors cette émission s'achève, nous remercions David, Emmanuel et Véronique pour cet échange. À bientôt pour un nouvel épisode de Pédacop dans le Cher.